Lévitique, chapitre 2. Donc, dans le chapitre 1er, nous avons traité des holocaustes. Là, nous allons traiter des offrandes. Si quelqu'un présente en oblation à l'Éternel une offrande, son oblation sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Il prendra une pleine poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile avec tout l'encens. Et le sacrificateur, brûlera cela sur l'autel comme mémorial. C'est une offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une portion très sainte des sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Si tu présentes en oblation une offrande de ce qui est cuit au four, conserve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton oblation est une offrande cuite à la poêle, elle sera de fleurs de farine, pétrie à l'huile, sans levain. Tu la romperas en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton oblation est une offrande cuite sur le grill, elle sera faite de fleurs de farine, pétrie à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite avec ses produits à l'Éternel. Elle sera présentée au sacrificateur qui la mettra près de l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme mémorial et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une portion très sainte des sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme oblation de prémisse, mais il n'en sera pas présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes en oblation. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, du sel de l'Alliance, de ton Dieu. Sur toutes tes oblations, tu présenteras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande de prémisse, tu présenteras des épis rôtis au feu, du blé nouveau broyé comme offrande de tes prémisses. Tu verseras de l'huile dessus et tu mettras de l'encens. C'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme mémorial une portion du grain broyé et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Amen. La dernière fois, nous avions souligné que l'Holocauste, c'était un acte gratuit. On offrait quelque chose de manière gratuite à Dieu, sans rien attendre en retour. Et nous avons souligné que c'était quelque chose qui était normal pour nous et qui devait être présent dans notre vie, qui devait être présent. Dans le texte que nous venons de lire, la première chose qui nous marque, c'est qu'il n'y a pas de sang, chose qui est assez rare dans le livre du Lévitique. Il n'y a pas de sang répandu, il n'y a pas d'animaux qui est sacrifié, mais ce sont des gâteaux qui sont faits. Et l'offrande, donc, on se souvient qu'on travaille toujours sur deux plans dans notre analyse. D'un côté, Jésus, d'un autre côté, nous les chrétiens. Et le symbole de l'offrande, pour ce qui est de Jésus, c'est tout simplement que ce qui est décrit ici nous permettra d'apprécier la personne de Jésus, nous permettra de reconnaître dans ces gâteaux qui sont faits de certaines manières, avec des ingrédients bien particuliers, permettra de reconnaître le caractère tout à fait extraordinaire de notre maître. Et l'offrande pour le chrétien, c'est tout simplement ce que j'ai appelé de manière très synthétique, mettre Dieu au centre des bénédictions qu'il nous a données. L'Holocauste gratuit, j'offre gratuitement. L'offrande, je rends une partie de ce que Dieu m'a donné à celui qui me l'a communiqué. Dieu me communique le souffle de vie, je le sers. Il y a une portion qui me revient à moi, puisque je profite de la vie, mais j'en rends une partie à mon Dieu. Mon Dieu me donne des talents, je les mets à son service. Même si quelque part, j'en profite également, je lui en rends une partie. Mon Dieu me donne certaines capacités, eh bien, je le sers en retour. Il me donne la santé, eh bien, je m'investis. Il me donne du temps, eh bien, je lui en redonne en retour. Bref, l'offrande, c'est ça. C'est tout simplement redonner à Dieu une partie de ce qu'il nous a donné et le remercier, le mettre au centre de ce qu'il nous a donné. C'est-à-dire que nous ne faisons pas simplement qu'en profiter, nous ne faisons pas simplement que lui dire merci. Mais au travers de ce gâteau, nous allons voir eh bien, que nous lui redonnons une partie de ce que nous sommes. Et là, il n'est pas fait question de mention de dîme, mais il est fait mention d'actes concrets dans notre quotidien. C'est quelque chose qui est important. Donc, l'offrande d'un côté nous montre le caractère parfait de Jésus, le caractère exceptionnel de Jésus, et de notre côté nous montre eh bien, que nous devons redonner à Dieu une partie de de ce qu'il nous a accordé. Alors, quelles sont les composantes de ces gâteaux? Les composantes essentielles de ces gâteaux. Premièrement, c'est le blé au travers de la fleur de farine. La fleur de farine, donc, il y a deux images pour la fleur de farine. La première, c'est que la fleur de farine est la meilleure partie du blé. Et c'est une constante dans le livre du Lévitique que l'on retrouvera. C'est toujours le meilleur qui est apporté à Dieu. Ce n'est pas l'accessite. Ce n'est pas ce qui reste. Ce n'est pas les plats, ce n'est pas les restants des plats. Non, c'est le meilleur. C'est ce qui vient en premier. Je n'ai pas besoin de développer. Donc, la fleur de farine symbolise cela. Comment est-ce qu'elle a été obtenue? Eh bien, elle a été passée au crible, et puis elle a été moulue. C'est un traitement que l'on ne souhaite à personne. Pourtant, c'est le traitement que Jésus a subi. Lui-même, dans l'évangile de Jean, se qualifiera comme le grain de blé qui est tombé en terre et qui est mort afin de porter du fruit. Et cette fleur de farine fait penser à l'œuvre de Jésus, à la personne de Jésus, qui a accepté de souffrir, qui a accepté de venir sur la terre des hommes, d'y être planté, d'y mourir, afin de donner le fruit que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des fruits de ce grain de blé qui est mort, de cette fleur de farine qui symbolise les souffrances de Christ. Dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce qu'il n'en est pas de même pour nous? Est-ce que dans l'offrande que nous offrons à Dieu, l'offrande de nos vies, il ne doit pas y avoir de temps en temps un petit peu de fleur de farine? L'apôtre Paul dira qu'il apporte encore un petit peu des souffrances du Christ. L'apôtre Pierre dira que, il faut se réjouir de participer aux souffrances du Christ. Parfois, on trouve des chrétiens dans d'autres églises, pas ici, qui ont une vie spirituelle totalement sèche et qui ne portent pas le fruit. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas d'ici, parce que nous portons tous du fruit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été moulu. Parce que devant la croix, devant cette nécessité de passer au crible, nous reculons. Et finalement, nous n'affrontons pas les combats qui sont les nôtres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas ce parfum, il n'y a pas cette offrande qui monte. L'offrande que nous offrons à Dieu est incomplète. Frère, ma sœur, si tu n'es pas encore passé au crible, bénis le Seigneur. Mais à un moment ou à un autre, si tu veux porter du fruit, tu y passeras. Parce que le principe de nos vies, c'est que nous devons mourir à nous-mêmes et que permettre au Seigneur de grandir en nous, afin que nous puissions t'éliminer. N'oublions jamais que le disciple accompli sera comme le maître. N'oublions jamais que ce sera ainsi, et que fuir la souffrance, fuir la difficulté, cela n'amène finalement pas à la renforce, mais vaut mieux participer parfois aux souffrances du Seigneur, afin d'être, de mourir à nous-mêmes et de porter du fruit. Vous savez, une fois que le grain de blé meurt, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bel épi. Qu'est-ce que vous préférez être? Un grain de blé ou un épi? C'est plus joli. C'est plus joli. C'est plus utile en plus. Je crois qu'il y a une parole de Dieu pour quelqu'un ce soir. Accepte les souffrances qui sont devant toi. Ne les refuse pas. Rentre-y comme une offrande, comme une participation aux souffrances que le Christ a accepté de payer pour toi. Tu n'en sortiras pas détruit, tu n'en sortiras pas cassé. Tu n'en sortiras pas complètement moulu et complètement broyé. Mais de cette mort, sortira une belle fleur. Ressortira quelque chose de beau. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Mais accepte d'être broyé. Accepte d'être finalement, passé de manière à ce que le meilleur de toi-même sorte. C'est paradoxal, mais en nous, il y a du bon, il y a du moins de bon. C'est vrai ou pas? Ouais. Alors, il faut que le Seigneur, il concasse tout ça, il le passe au crible, au tamis, et puis, ensuite, il reste que le meilleur. Mais avec nous, ça fonctionne un peu différemment parce qu'il y a plusieurs filtres, en fait. parce qu'on est un peu fragile, et puis il sait très bien que s'il nous broie de suite, etc., pour attirer le meilleur, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a différents cribles. Et puis plus on avance dans la vie chrétienne, et plus les cribles sont étroits. Et plus le résultat devient fin, et devient la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Deuxième image de la fleur de farine, c'est que c'est l'harmonie du caractère. Il n'y a aucun grumeau dans la fleur de farine. Il n'y a pas de gros tas, pas d'agglomération. Non, tout est... Chaque grain, à la limite, peut être identifié, coulisse, c'est de la bonne qualité. Application spirituelle pour ce qui est de Jésus, c'est qu'il nous fait penser au caractère parfait de notre maître. Parfait parce qu'il a été constant dans ses réactions. Il a toujours suivi la même ligne de conduite. Et la ligne de conduite de Jésus, c'était quoi? Dur avec le péché, par contre, tendre avec les pécheurs. Dur avec les pharisiens qui se croyaient justes, et par contre, plein d'amour avec la femme adultère. Ou alors avec Nicodème qui viendra le voir. Ça a toujours été la ligne de conduite de Jésus. Toujours. Alors me direz-vous, dans le temps, qu'il n'a pas été tendre, hein? Oui, mais c'était une sainte colère, un zèle, quelque chose, un élan du cœur qui était poussé par lui. Et cette fleur de farine nous montre finalement toute la constance, toute la linéarité du caractère du Christ. Il n'y a pas de grumeaux, il n'y a pas de hausse, il n'y a pas de bas. Il y a une cohérence. Tous ceux qui sont venus à Jésus, il leur a pardonné. Tous ceux qui viennent encore à Jésus, il leur pardonne. En revanche, ceux qui ne venaient pas et ceux qui vivaient de leur propre justice, dans ces cas-là, eh bien, ils ne pouvaient rien faire pour eux. La cohérence de Jésus reste et demeure. Reste et demeure. Je pense que pour nous, il y a une belle application spirituelle. Seigneur, pas de grumeaux dans ma vie. Pas de grumeaux dans ma vie. Et pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, il faut passer au crible. Je pense que l'apôtre Paul, je reviens au premier point, il n'aurait jamais été, il ne serait jamais resté l'apôtre Paul s'il n'avait pas eu cette écharpe dans la chair. S'il n'avait pas été cassé, brisé à certains moments. S'il n'avait pas subi bien tous les affres qu'il a subis, serait-il resté l'apôtre Paul? Nos caractères sont affinés par les circonstances de la vie. J'aime beaucoup lorsque Jésus va dire à l'apôtre Pierre, ou celui qui le deviendra, quand tu seras revenu, tout entendu quand tu seras converti, alors tu pourras affermir tes frères. Pour l'instant, tu n'en es pas capable, il y a trop de grumeaux dans ton caractère, Pierre. D'abord, il faut que tu passes autour de ce feu-là, que tu renies, et ensuite, il faudra que tu viennes me voir un petit peu à Tibériade, et qu'on discute. Là, ben, il y a bien des grumeaux qui se sont éteints dans la vie de Pierre, et il a été capable d'être celui qui va prêcher à la Pentecôte. Et là, eh bien, une foule va se convertir. Il restera quelques grumeaux ensuite dans la vie de Pierre. On peut le voir dans l'épître aux Galates, lorsque eh bien, l'apôtre Paul va devoir le reprendre, parce que eh bien, quand Jacques n'était pas là, il allait manger avec les païens. Par contre, dès qu'il voyait Jacques et ses copains arriver, hein, il fuyait, un tantinet hypocrite. Donc l'apôtre Paul va le reprendre, parce qu'il va même entraîner Barnabas, dira-t-il. Il y avait des grumeaux, il fallait encore qu'il passe un petit peu au crible. Mais il n'empêche que ça a été un homme de Dieu. Et nos caractères ont besoin d'être confrontés, hein, d'être broyés en quelque sorte, de manière à faire ressortir ce qu'il y a de meilleur. Il y a du bon en nous. Il y a de l'excellent en nous. Si, 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 regarde ton voisin, il y a de l'excellent. Putain, tu peux regarder, hein. Il y a de l'excellent. Hein. Eh, c'est sûr. Mais bon, parfois, il faut être pressé un petit peu pour que l'essentiel puisse sortir. Donc, conclusion de cette fleur de farine, on pourrait schématiser parce que dira Jean-Baptiste à propos de son ministère, hein, il faut qu'il grandisse en parlant de Jésus et que moi je diminue. Je ne peux pas diminuer par moi-même, hein, mais pour cela, il faut que eh bien, ma nature soit pressée par celle de Jésus de manière eh bien, à ce qu'il prenne toute la place et que le Saint-Esprit dépose en moi le sentiment qui était en lui. Deuxième élément, l'huile. Facile. Ah, la symbolique de l'huile, tout le monde la connaît. Alors, elle a été utilisée de deux manières dans les gâteaux. Première manière, elle était pétrie avec la farine. C'est-à-dire qu'elle
englobait tous les grains. Elle était intimement liée aux grains de farine.
C'est l'image du Saint-Esprit en nous. De la même manière que Jésus a été pétri par le Saint-Esprit dans le sein de Marie, et qu'ensuite tout son ministère a été imbibé du Saint-Esprit, la preuve, vous imaginez, vous, est-ce qu'une nature charnelle aurait accepté d'aller 40 jours dans le désert pour jeûner, au milieu des bêtes sauvages? Vous accepteriez ça? Mais pourtant, Jésus était tellement pétri de l'Esprit de Dieu qu'il a accepté de faire ça. Sa nature était tellement imbibée par l'Esprit de Dieu, par la volonté de satisfaire le Père, eh bien qu'il s'est laissé diriger. L'évangile de Marc utilise un terme violent, si mes souvenirs sont bons, il va dire que Dieu a chassé Jésus dans le désert, comme une priorité, il y a comme quelque chose d'impératif. Donc c'est lui qui est pétri, l'action intérieure du Saint-Esprit en Jésus, et l'action intérieure du Saint-Esprit en nous, nous allons y revenir. Mais ensuite, on a pu le lire dans le texte, et à plusieurs reprises, il y a eu de l'huile qui était versée sur les gâteaux. Image du baptême dans le Saint-Esprit, qui revêt les chrétiens, et qui a revêtu Jésus. Alors, grand point doctrinal, Jésus est-il baptisé dans le Saint-Esprit, ou est-il celui qui baptise dans le Saint-Esprit? Je ne trancherai pas ce soir. Là n'est pas notre propos. Mais Jésus était revêtu d'une puissance tout à fait particulière. Il avait été oint afin de délivrer les captifs, de guérir les malades, etc., de redonner la liberté. Il guérissait, faisait des miracles, il chassait des démons, bref, une grande puissance, l'animé. L'huile était sur sa vie. Vous savez, cette image des pains pétris nous montre tout l'équilibre que nous devons avoir dans le domaine de la vie de l'esprit. Il y a des chrétiens qui ont tendance à ne parler que de la puissance. L'huile sûre. Le revêtement. Et puis, il y en a. Et ils occultent complètement la notion de l'huile dans, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Vous me suivez? Et puis, il y en a d'autres qui se contentent de l'huile dans, disant, Seigneur, plus de douceur, plus de paix, plus de maîtrise de soi. Mais, sous une forme de timidité, ils ne veulent pas vivre toute la puissance que le Saint-Esprit peut donner, peut communiquer, au travers de ce revêtement de puissance, en disant, ah ouais, mais si jamais j'exerce le don spirituel, il va falloir que je prenne des risques. Puis il y a une troisième catégorie de chrétiens qui ne veulent ni l'un ni l'autre. Comme ça. Ça existe aussi. Ce n'est pas notre cas, ils sont très très loin. Donc, on doit être équilibré, de manière à être une offrande bien pétrie, et à pouvoir redonner à Jésus ce qu'il désire, c'est-à-dire avoir non seulement cette volonté de changement intérieur, dans « Seigneur, change-moi, fais grandir en moi le fruit de l'esprit, je veux plus de paix, je veux plus d'amour, je veux plus de joie, je veux être de plus en plus bon, je veux être de plus en plus maître de moi-même. » etc. Vous connaissez la suite. Mais également, de dire « Seigneur, je veux être capable eh bien, de manifester cette puissance d'en haut. Et que dans ton nom, eh bien, mon voisin qui est possédé, eh bien, il soit délivré. Alléluia. Je veux que partout dans mon lieu de travail, c'est mon lieu de travail, dans ma famille, eh bien, il y ait quelque chose qui se passe. Parce que je serai revêtu eh bien, de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit. Les deux doivent avoir la même place. Les deux étaient présents dans l'offrande. L'huile était à l'intérieur et l'huile était à l'extérieur. Où est l'huile dans ta vie? Dans la fiole à côté de ton lit? Où est l'huile? Simplement à l'intérieur, personne ne la voit. Ou alors tout dans l'apparence et dans l'ensemble en puissance. Que le Seigneur nous aide à être bien équilibré dans ce domaine-là. Nous savons que le Seigneur, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 34, eh bien, a reçu l'Esprit sans mesure et nous le donnera également sans mesure. Troisième élément, l'encens. Alors, l'encens, il y a plusieurs sens possibles, comme très souvent en typologie. Et ça ne serait pas honnête de n'en présenter qu'un seul. Le premier sens de l'encens, donc, qui composait ces gâteaux, c'est, on peut le traduire par le fait que Jésus, dans son service, n'a eu qu'un seul objectif, la gloire de Dieu. C'est-à-dire toute une vie sur l'autel, toute une vie d'adoration. Et on peut le rapprocher du psaume 45 au verset 2, que j'aime beaucoup, qui dit que des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je l'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, etc. Mon œuvre est pour le roi. Tout ce que je fais est pour mon Dieu. Toute ma vie est pour mon Dieu. Toute ma vie, voilà. C'est ce parfum d'adoration qui monte. Nous l'avons vu la fois dernière. Deuxième signification de l'encens, c'est qu'elle peut faire aussi penser au parfum de sainteté qui s'est dégagé de la vie de Jésus. Jésus qui a vécu en toute chose comme nous sans jamais commettre de péché. Et qui, une fois sur l'autel, eh bien, c'est la sainteté qui se dégage de Dieu. Vous avez peut-être dû raconter cette anecdote. C'est pendant la guerre. Il n'y a pas grand-chose à manger. Et un jour, mon grand-père, très fier de lui, ramène une noix du marché. Une noix qu'il avait récupérée, je ne sais où. Alors, c'était la fête dans la maison. On tue l'oie. C'est déjà tout un festival pour tuer une noix. Parce que je lui coupe la tête et puis l'oie continue à courir. Elle s'en part dans le garage. Enfin, bref. Bon, mais tout le monde était content. Il y avait de la viande sur la table. Et donc, la prête, puis les aromates, truc, machin. Le mettre dans le four. Et puis, au bout de quelques temps, une odeur nauséabonde s'élève du four. Elle était pleine de vase. Elle ne mangeait que des cochonneries. Elle était immangeable. La sainteté n'était pas à l'intérieur. Elle n'était pas propre à l'intérieur. Et résultat des courses, l'odeur qui montait était nauséabonde. Dans le chapitre 1er, on peut s'apercevoir que les jabots des oiseaux que le sacrificateur vidé avec son ongle était enlevé de manière à ce qu'il n'y ait pas ces odeurs de viande qui est montée. Je me demande parfois quelle est l'odeur qui monte de notre vie. On peut se poser la question, hein. Si on nous mettait dans un four, on nous chauffait un peu, on nous en retire. Et quelle odeur monterait vers Dieu? Une question. Une bonne question. Troisième signification, seconde aux Corinthiens, chapitre 2, verset 15, nous avons vocation non pas à être une noix mal gavée, mais nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Même parmi ceux qui périssent, nous restons, nous demeurons la bonne odeur de Christ. Troisième signification de l'encens. Ça va, vous tenez le coup? L'encens est aussi une allusion à la vie de prière qui accompagne le ministère terrestre de Jésus. Pourquoi? Quel est le texte qui vous vient à l'esprit? Je suis sûr qu'il y en a un, vous le connaissez par cœur. Apocalypse, chapitre 8, verset 3. À l'ouverture du septième sceau, il y a un ange qui vient avec un encensoir. Vous le connaissez par cœur. Un ange qui vient avec un encensoir et qui mélange l'encens aux prières des saints qui ont été recueillies dans des coupes. Courant, ça. Et de ce fait, hein, ça image toute la vie. L'encens peut se mélanger, peut imaginer la vie de prière. Et nous savons que Jésus priait. Hein, lorsqu'il avait les foies, lorsqu'il priait la nuit, il priait de manière à être plus proche de son Père. Il y a un verset dans l'évangile de Luc qui récemment m'a interpellé. Il y avait de plus en plus de monde qui venait au pied de Jésus et lui, il priait de plus en plus. Il priait de plus en plus. J'ai beaucoup aimé ce passage. Donc, on peut prendre ces trois notions dans le sens. On peut les garder. Il faut en choisir une. À un moment donné, il faut se mouiller. Hein, je pense que c'est important. Je remettrai en relation la première et la deuxième. Dire que finalement, l'encens dans l'offrande que l'on met et dans l'offrande qu'a été Jésus, c'est sa fidélité dans le service et son dévouement complet. Nous n'oublions pas que tout ce que nous sommes, eh bien, c'est pour notre Dieu. Tout ce que nous sommes, c'est pour notre Dieu. Simplement parce que nous sommes certes ses amis, mais nous sommes également ses serviteurs, ses esclaves, comme dira l'apôtre Paul au sens du terme. Nous sommes des doulos, des serviteurs de notre Dieu. Quatrième élément. C'est quoi? Vous suivez? Quel est le quatrième élément? Aïe, je vous ai perdu en route là. Hein? Celui qui me dit le vin, il sort dessus. Le sel, très bien.
Quelles sont les images du sel? Toujours un petit peu de typologie. Elles sont nombreuses.
Alors, dans le texte. Non, d'abord, celles qui ne sont pas. Le sel, premièrement, c'est la notion de jugement. Marc, chapitre 9, verset 49. Tout homme sera salé de feu. Deuxième, le témoignage. Jésus qui dit dans l'évangile de Matthieu, j'aime beaucoup la version Colombe qui dit, c'est vous le sel de la terre. C'est pas les politiques, hein, c'est pas les philosophes, c'est pas les chanteurs du sel de la terre, c'est vous les chrétiens, mes disciples, les enfants de Dieu. Troisième, ah j'aime bien cela, le sel fait mention à l'intérêt. Colossiens chapitre 4 verset 6, un beau challenge pour nous, surtout pour moi. Chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et assaisonnée de sel, littéralement, c'est que votre parole soit toujours intéressante. C'est un beau challenge. Que votre parole soit toujours intéressante. Mesdames. Et quatrième. Celle qui est dans le texte, hein, et le texte nous donne la réponse pour nous faciliter la tâche. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes en oblation. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes oblations, tu présenteras du sel. Donc le sel ici est l'image de l'alliance, mais l'image de l'alliance incorruptible, ou ce que l'auteur aux Hébreux appelle l'alliance éternelle. Pourquoi cela? C'est parce que les nomades avaient l'habitude de sceller les alliances entre eux avec du sel. Bon, je ne connais pas exactement la procédure, hein, mais c'est une notoriété publique. Et à partir du moment, et donc là, chaque fois qu'un Israélite allait offrir son gâteau et qu'il l'assaisonnait de sel, il renouvelait cette alliance incorruptible qui était scellée entre Dieu et lui. Parce que lui étant membre du peuple de Dieu. Je pense que c'est bon parfois de renouveler notre alliance avec Dieu. De se souvenir de ce qu'il nous a promis et de se souvenir de ce que nous lui avons promis. Est-ce que vous avez en tête quelques promesses que vous avez faites à votre Dieu? Quelqu'un est-il sur le point de rompre l'alliance? Quelqu'un est-il sur le point de casser l'alliance? De renoncer à cette alliance qui est éternelle du côté de Dieu. Peut-être. Je crois que ce soir, dans notre cœur, c'est bien de mettre un peu de sel. C'est bien de mettre un peu de sel. Et de dire, Seigneur, je me souviens de ce que je t'ai promis. Je me souviens de ce que je me suis engagé à dire, à faire. Ou à ne pas faire. Seigneur, je vais mettre un peu de sel ce soir sur ma vie. Le sel, c'est incorruptible. Ça ne prend jamais l'odeur du plat que ça assaisonne. Comme je vous le dis de temps en temps, si le sel prenait le goût des nouilles, ce serait des nouilles. C'est incorruptible. Ça a été. Sale ta vie, et toi pars. Et souviens-toi de la promesse que tu as faite à Dieu, de ton engagement. J'ai encore 5 minutes. Les éléments interdits. Le premier, c'est. Yes. Combien de significations du levain dans le Nouveau Testament? L'hypocrisie, premier. Je vous renvoie au texte. Luc chapitre 12, verset 1. Pendant ce temps, des milliers de gens sont venus autour de Jésus. Ils se marchent sur les pieds parce que la foule est très nombreuse. Jésus commence par dire à ses disciples, faites attention au levain des pharisiens, ne soyez pas des gens faux. C'est la version parole de vie. La version Tob, traduit également par fausseté. la parole vivante traduit par piété de façade. Ça, c'est la première signification. Faisons tout en vrai avec Dieu. Portons pas de masque, ça sert à rien. À un moment donné, il tombe toujours. D'ailleurs, étymologiquement, quand on recherche, je me suis amusé à faire ça, où j'ai drôle d'amusement. Étymologiquement, c'est un mot qui rappelle le rôle d'un acteur de théâtre. Hypocrisie. Le rôle d'un acteur de théâtre. Deuxième sens du levain, toujours dans la bouche de Jésus. Ça, c'est plus dur. Hein? Non. Matthieu 16, verset 5 à 6. Les disciples, en passant de l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. On est dans le contexte où les disciples doutent. Et le levain, ici, le levain des sadducéens, s'est assimilé au doute. Et le doute, on sait très bien comment ça prend sa face. Hein. On en met un petit peu. Et puis petit à petit, ça grandit. Regardez comment le diable a fait avec Ève. Il a mis un coup de levain. Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève, ça a grandi. Et puis, petit à petit, elle a convaincu son mari d'aller croquer la pomme. Enfin, pas la pomme, le fruit, pardon. Je suis fatigué. D'aller croquer le fruit. Un peu de doute. Comme le levain, un peu de levain fait monter beaucoup la pâte. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Troisième signification du levain. Toujours dans le même texte, mais c'est un passage parallèle dans l'évangile de Marc, au chapitre 8 et au verset 15. Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Hérode, c'est le symbole du monde, de la mondanité, de la violence, de la malice. Hein. Il sera qualifié de renard. Bon, voilà. On sait qu'un petit peu d'amour du monde, eh bien, ça grandit. Et puis ça étouffe les choses. Hein, ça étouffe notre foi. Donc, l'offrande de notre vie doit être dépourvue de tout cela. Jésus lui-même a été la vérité. Hein. Dieu suit le chemin, la vérité, la vie. Il n'y avait aucune hypocrisie en lui. Il est le chef et le consommateur de notre foi. En cela, il n'y a strictement aucun doute en lui. Et puis, il a dit, je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. Donc, il n'avait absolument rien du monde en lui. Et le second élément, deuxième élément qui était interdit, c'était le miel. Ça tourne. Au niveau, c'est pas bon de chauffer trop. De mettre le miel, c'est pas une bonne chose. Verset 11b, vous ne brûlerez rien qui contienne du levain et du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Donc au niveau conservation, ce n'est pas extraordinaire. Mais surtout, le miel, ça parle de la douceur de la vie. La douceur du monde, en quelque sorte. Ça me fait penser à Salomon, en quelque sorte. Salomon qui, pendant les premières années de sa vie, a construit le temple, certes. Puis ensuite, hein, il s'est construit une belle maison. Il sait qu'il a construit bien des villes. Et puis, il s'est habitué au faste. Il aimait être admiré, alors l'élément symbolique le plus marquant, c'est qu'il faisait venir des pans, des vitres. Le pan, on connaît tous l'image du pan. Et on remarque toujours dans Lévitique 1 que les plumes du jabot étaient enlevées. Les plumes, c'est tout l'apparat. Tout l'apparat. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide en tout cas à vivre dans cette dimension d'offrande. Non, Seigneur, tu m'as donné des choses, je veux te les rendre. Mais je ne veux pas te les rendre n'importe comment. Je ne veux pas te les rendre selon mes règles à moi. Je ne veux pas te les rendre selon mes critères à moi. Comprenez ? On peut rendre à Jésus selon nos critères à nous. Mais ce que Jésus veut, c'est qu'on lui rende selon les critères qui l'honorent. N'oublions jamais que Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Il y a une manière pour adorer Dieu. De la même façon, il y a une manière pour le servir et lui rendre ce qui lui est dû. Alors, il faut le faire, eh bien, en acceptant parfois, eh bien, d'être broyé quelque peu, de manière à ce que notre caractère soit un peu moins grumeauté, c'est un néologisme. De la manière à ce que ce soit le meilleur de nous-mêmes qui sorte. Faut pas s'en étonner si parfois la vie nous casse. Faut pas s'en étonner. C'est toujours le meilleur qui ressortira. Deuxième élément, hein, qui est nécessaire, faut du sel. L'incorruptibilité et surtout une alliance incorruptible. Troisième élément, il faut de l'encens.
sacrifice total, complet, entier. Mon œuvre est pour le roi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et nous permettre d'être ainsi. Une offrande véritable, une offrande authentique.